Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous le disais dimanche dernier, il y a donc 3 jours, que le carême avait pour finalité prochaine de purifier notre regard des scories qui l'entravent, qui l'alourdissent un peu plus chaque jour. Ces scories, elles ont un nom très simple, et je ne sais pas si je vous en ai parlé tel quel, il s'agit de la concupiscence, c'est-à-dire de cet attrait pour des biens qui, en soi, sont bons, et même très bons, mais dans un attrait désordonné. Cette concupiscence se manifeste de diverses manières, en fonction de qui vous êtes, en fonction de votre tempérament, et parfois il en existe qui cumulent toutes ces aspirations malhonnêtes. Aspirations excessives à exercer une domination toute humaine sur le monde créé, complaisance exagérée dans les créatures auxquelles nous portent nos appétits charnels, curiosité déplacée envers des réalités que nous n'avons pas à connaître, bref, cette concupiscence dans laquelle chacun peut se reconnaître selon le type que je viens de décliner, cette concupiscence nous pousse, sans même qu'on en ait conscience parfois, c'est là le drame, à s'asservir tout et tous, c'est-à-dire toutes les créatures inanimées, animales qui nous entourent, et tous, plus grave encore donc, nos frères, dans une sorte de mouvement égocentrique qui tire la couverture à soi seul. Il s'agit en quelque sorte, chaque jour, après avoir fait la prière du matin, en ayant oublié les résolutions très hâtives d'un matin un peu dur, de se gaver, et de se gaver au maximum toute la journée. Voilà à quoi nous porte la concupiscence. Avouez que tous nous en sommes marqués. La concupiscence nous pousse à oublier les paroles si poétiques de saint Augustin, qui croyait lire sur les lèvres des créatures, je cite, « Vois comme nous sommes belles ». Saint Augustin était ce grand contemplatif, en même temps que cet amoureux qui n'était pas fait de bois, qui, contemplant la réalité, était en extase permanente. Et vous le savez, ces réalités naturelles qu'il aimait, les choses inanimées, mais aussi les femmes, la rhétorique, l'art de bien parler, le bien vivre, la nourriture, bref, l'art de la table, tout cela que saint Augustin discernait comme bon, malheureusement faisait obstacle à son cheminement vers Dieu. Et un jour, parce que la grâce de Dieu l'a frappé, un jour il a compris ce que je vais vous dire, c'est-à-dire ce qu'il mettait sur les lèvres de ses créatures, « Vois comme nous sommes belles ». Rien ne changeait par rapport à ce qu'il envisageait de ses créatures auparavant. Mais la suite est révélatrice. Ce n'est pas nous qui nous sommes faites. Au-dessus de nous, et j'ajoute à saint Augustin, j'ose ajouter à ce grand poète et théologien, à travers nous et parfois même malgré nous, cherche Dieu. Vous voyez, saint Augustin a compris en quelques années, et il a fallu que la grâce l'aide pour cela, bien sûr, puissamment, il a compris que les créatures ne devaient pas faire obstacle à Dieu, mais qu'au contraire, elles chantaient la gloire de Dieu, comme nous le dit le psaume. C'est-à-dire qu'elles devaient nous renvoyer à Dieu. C'est là, du reste, la seule utilité des créatures. Saint Augustin aimait comparer celui qui laisse son regard se faire hypnotiser par les créatures, par le monde qui se trouve autour de nous, dans lequel nous sommes engoncés, et ce monde qui est beau, il faut bien le dire pour une grande part, eh bien il comparait cette personne-là, c'est-à-dire chacun d'entre nous, à une fiancée indigne. Son aimé vient de lui donner la plus belle des bagues, parce que bien sûr, lorsqu'on est fiancé et qu'on reçoit la bague de son aimé, il s'agit de la plus somptueuse des bagues, d'autant qu'on la choisit très souvent. Et voilà que la malheureuse, fascinée qu'elle est par cette bague, en vient à tomber amoureuse, non plus de son fiancé qui la lui a donnée, mais de cette bague elle-même. Au point qu'elle se dise, en son for intérieur, « Cette bague me suffit, je n'ai plus besoin, je n'ai plus envie de voir mon fiancé. » Quelle horreur! Si l'on voyait ça dans un couple, on dirait à la fiancée d'aller se faire soigner et au fiancé de reprendre un peu la bague quelque temps. Mais là où saint Augustin est très fort, c'est dans l'analogie qu'il porte quant à notre propre démarche. Nous sommes la fiancée, la création tout entière qui nous entoure et qui nous hypnotise chaque jour est cette bague que notre bien-aimé nous a donnée, Dieu, et chaque jour nous préférons notre bague à notre bien-aimé. Il en va bien de même pour nous, et vous voyez que saint Augustin est un très bon humaniste bien avant l'heure. Le grand évêque de Carthage de conclure, « Si donc Dieu t'a donné toutes ces choses, et ces choses sont bonnes, dit-il, il veut te donner plus. Je veux dire, il veut se donner. Mais si tu aimes ces choses, je cite toujours saint Augustin, si tu aimes ces choses, même faites par Dieu et même bonnes, en négligeant le Créateur et en aimant le monde, ton amour ne sera-t-il pas tenu pour adultère ? Voilà le terme qu'ose saint Augustin, et là il ne s'agit plus seulement de la fiancée et de sa bague, il s'agit de nous, de Dieu et de la création. Vous avez entendu, nous sommes des adultères, parce que plusieurs fois par jour, nous préférons la bague au fiancé. Parce que nous regardons avec gourmandise toutes ces choses affriolantes qui nous entourent. C'est bien pour cela que Dieu s'est résolu à nous offrir une bonne douche froide, ou plutôt à nous offrir le désert, à nous offrir le carême en un mot. L'entendez-vous murmurer à l'oreille de chacun ce soir, plus délicatement, mais certainement avec beaucoup plus de pertinence que l'abbé qui vous parle, comme il disait jadis à Osée, au prophète Osée, « Je l'attirerai au désert et là je parlerai à son cœur ». Voilà le plan de Dieu. Plutôt que de casser la fiancée, il décide de l'emmener dans un endroit qui est plus propice à la séduire à nouveau. Je purifierai, autrement dit, je purifierai son regard, puisque la seule manière d'acquérir son amour est qu'elle détourne une bonne fois pour toutes ses yeux de cette bague. Je vais l'amener là où bague il n'y a pas, je vais l'amener au désert. Et voilà que nous entrons avec cette fiancée au désert. Je ne fais ici, me direz-vous, que répéter grosso modo ce que je vous ai dit il y a deux jours. C'est vrai. Mais d'abord, bis repetita placet, comme on dit. Et puis d'autre part, je le fais avec les termes de saint Augustin que j'ai trouvé entre-temps et qui me semblaient tellement percutants que je ne pouvais pas me passer de le faire. Mais, me direz-vous, nous avons bien compris, il s'agit d'aller au désert, il s'agit de changer son regard qui doit être rendu incandescent par la charité que Dieu nous communique. Mais concrètement, comment ça se passe ? Nous savons bien que Dieu nous donne sa charité, il n'attend que cela, il est un père prodigue, lui, mais comment faire très concrètement dans notre vie de carême ? Eh bien, je ne vais rien inventer de nouveau et je vais reprendre les trois petits exercices coutumiers de carême, c'est-à-dire en fait le condensé du sermon sur la montagne où Jésus nous parle d'aumône, où Jésus nous parle de jeûne, et c'est une citation de ce sermon sur la montagne que nous avons eu comme évangile ce soir, et il nous parle de jeûne, d'aumône et de prière, bien sûr. Voilà que j'oubliais l'essentiel. Eh bien, pour se sevrer de cet attachement désordonné aux créatures, au pouvoir que nous pouvons exercer sur lui, à la jouissance que nous pouvons en avoir, Dieu met dans notre main deux armes essentielles, le jeûne et la prière. Ces démons ne se chassent, nous dit Jésus lui-même, que par le jeûne et par la prière. Je pense que si nous prenions un peu plus au sérieux le jeûne, parce que la prière, je sais que je parle à de grands orants, mais le jeûne, voilà quelque chose qui nous gratouille un peu plus. Et chaque année, nous voyons arriver avec effroi ce mercredi des cendres, ainsi qu'à la fin du carême, ce vendredi saint. Ces deux dates noires dans notre année liturgique, avouons qu'en réalité, très souvent, en fait de jeûne, nous nous privons d'un ou deux mets dont d'habitude nous n'avons pas l'usage. Ou si nous essayons tant bien que mal de nous adonner au jeûne, voilà que toute la journée nous gémissons. Mon frère, je crois qu'il ne faut pas douter de la puissance de notre nature. Dieu nous a pourvus d'une nature qui peut affronter le jeûne. Lui-même, dans son humanité, et n'étant rien comme, à ce moment-là, à affronter, comme vous le savez, et comme l'Évangile vous en sera relaté encore dimanche, 40 jours de jeûne sans eau et sans pain. Il ne s'agit pas de cela pour nous, mais avouons que nous pourrions faire un petit effort. Le jeûne est ce qui nous permet de nous détacher de ces délectations dans lesquelles nous voguons, nous naviguons tous les jours. Pour nous prouver à nous-mêmes d'abord, mais pour prouver à Dieu également, que cette bague, finalement, toute belle qu'elle est, nous la relativisons. Nous en relativisons la valeur, nous le préférons, lui, le fiancé. Ce jeûne nous permet de nous détacher des créatures. Et c'est une manière radicale de le faire. Vous savez que nos frères d'Orient ne plaisantent pas avec le jeûne et que nous pourrions bien prendre modèle sur eux pour une fois. Quant à cette arme qu'est la prière, Je ne vais pas y consacrer plus de deux phrases, parce que, eh bien, il est très simple de se mettre en prière. Il suffit de prendre les évangiles qui changent chaque jour pendant ce temps béni du carême, dans notre forme extraordinaire du rite romain, qui d'habitude n'est pas si riche en lecture. Alors, profitez chaque jour de cette lecture continue des Écritures pour approfondir cette relation à Dieu. On me dit souvent qu'on n'arrive pas à faire oraison. L'oraison, l'adoration, qui sont des grands mots, commence simplement par prendre en ses mains le Nouveau Testament ou toute la Bible et à prendre tel ou tel passage patiemment, sereinement, en imaginant qu'on y voit là, eh bien, notre Dieu et que c'est le moyen par excellence d'entrer en communication avec lui. Vous voyez qu'il n'y a là rien de bien sorcier que ce jeûne et cette prière. Mais le diable est là, qui cherche qui dévorer, comme nous dit saint Pierre, et le diable se plaît à nous, à nous chatouiller, même lorsque nous parvenons à quelque effort en matière de jeûne et de prière. Et voilà que, au bout d'une demi-journée d'un demi-jeûne, et au bout de 5 minutes supplémentaires de prière, nous regardons notre conjoint, nos enfants, nos parents, nos proches, a fortiori ceux qui sont loin de tout, de très haut, en nous disant que nous, au moins, nous sommes des chrétiens conséquents. Et voyez-vous, je crois que le troisième outil que Dieu met à notre disposition, l'aumône, est précisément un remède à ce genre de complaisance en soi et à ce genre de mépris de l'autre. Parce qu'au lieu de se cantonner dans son petit huis clos, où l'on se plaît à prier Dieu et à jeûner tout seul, on se tourne alors vers l'autre. Et on fait bénéficier par l'aumône du fruit de cette prière et du fruit de ce jeûne. Un jeûne qui n'est pas accompagné par le don, non pas de la somme équivalente, on n'est pas là pour faire des calculs de boutiquier, un jeûne qui n'est pas accompagné par l'expression concrète de la charité à l'égard de celui qui vous tend la main, est un jeûne fallacieux. Une prière qui n'est pas accompagnée immédiatement, c'est-à-dire dès lors que vous avez fait votre signe de croix final de la prière, par la volonté de faire du bien à votre prochain, est une prière fallacieuse. L'aumône, voyez-vous, est cet étalon, cette jauge qui nous permet de savoir où nous en sommes de ces deux autres efforts de carême. Vous voyez que le Seigneur a très bien fait les choses. Je vous invite, pour votre part, comme je vais m'efforcer de le faire moi-même, à trouver sur ces trois terrains de combat du jeûne, de l'aumône et de la prière, de quoi réjouir enfin le fiancé et lui montrer que cette bague, au fond, qu'il va s'empresser de vous rendre, une fois que vous aurez fait cette preuve que vous l'aimez, cette bague-là, elle est quand même relative. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.